Oui, bah, je voudrais d'abord dire mon embarras parce que je suis très loin de mon domaine d'expertise, enfin de mes domaines d'expertise. Et puis, je n'ai pas pu assister aux discussions de ce matin, donc j'ai qu'une vue partielle, évidemment, des débats. Donc, je vais surtout partir du livre de Maurizio, puisque un des intérêts de cette rencontre, c'est de nous avoir fait lire ce livre. Et bah, au fond, j'aurais deux choses à dire, donc je vais peut-être procéder en deux étapes. Je pense que c'est mieux plutôt que deux interventions où on se répondrait globalement, qu'il y ait une circulation. Donc, j'aurais quelque chose à dire en un second temps sur ce qui me paraît être la thèse philosophique profonde du livre, ce qu'il y a derrière le livre, à savoir une thèse sur l'essence du social. Ça, bon, je préfère y revenir en second temps. Donc, je voudrais plutôt commencer par un premier point qui est une perplexité qui, je pense, est assez naturelle. Hein. Je pense qu'à la lecture du livre, on l'a forcément. C'est qu'au fond, il y a donc une thèse de fond globale sur la nature sociale de l'homme dans le livre. Mais on s'intéresse à un phénomène qui, lui, est un phénomène bien déterminé dans le temps, qui est un phénomène assez récent. On s'intéresse à une transformation récente du monde humain. Et on est forcément frappé par ça, puisque vers la fin du livre, tu dis, parlant de, au fond de la robustesse du social, dans une polémique contre le constructivisme, tu dis « il s'agit de phénomènes qui adviennent sur des échelles temporelles très amples et qui suivent des processus très longs, trop longs, pour qu'on puisse en saisir le développement. » Et effectivement, je pense que c'est un aspect de notre être social que, en un sens, il plonge ses racines dans la nuit des temps. Y a pas, la première nature n'a pas le monopole du temps long. La seconde nature, également, est une nature sur le temps très long. Et bah, c'est justement ce qui en fait une nature, au sens où c'est ce qui fait sa solidité. Or là, on s'intéresse à quelque chose qui est tout de même extrêmement brutal. On peut dire, tu l'as rappelé tout à l'heure dans la discussion, le monde s'est transformé radicalement en 20 ans. Et je pense qu'un des intérêts du livre, c'est aussi l'analyse de ce phénomène actuel, c'est l'analyse de ce qu'on pourrait appeler une mutation anthropologique. Alors la question qu'on se pose forcément, c'est quel est le rapport de cette mutation anthropologique avec ce que tu dis par ailleurs sur, pourrait-on dire, l'essence sociale de l'homme. Et là, il y a une ambiguïté peut-être qui se fait jour. Parce que d'un côté, au fond, tu donnes beaucoup d'éléments de diagnostic qui vont dans un sens qui est assez commun aujourd'hui et qui, je pense, est juste. Au fond, des diagnostics sur l'aliénation que représente le passage de l'homme à l'ère numérique, si c'est un passage total. Or, le problème, c'est qu'il semble se présenter nécessairement sous l'espèce du total, puisque fait partie de cette mutation, qui est cette dimension de mobilisation intégrale, de mobilisation sans reste. Et puis de l'autre côté, tu sembles dire quelque chose qui irait en sens inverse, c'est-à-dire que tu sembles faire de cette mutation un révélateur de quelque chose qui, au fond, aurait toujours été là. En un certain sens, on pourrait dire que cette mutation, le passage à l'ère numérique, bah, ça se présenterait quasiment comme l'accomplissement de l'essence de l'homme, en un certain sens. Et dans cette réversibilité, il y a également une ambiguïté dans l'évaluation, pas seulement dans le diagnostic, mais dans l'évaluation, puisqu'au fond, à la fin du livre, après avoir présenté beaucoup d'éléments, hein, tout un cahier à charge de l'aliénation moderne ou postmoderne, du monde postmoderne dans lequel nous vivons, tu termines avec un diagnostic plus clément et tu dis, mais finalement, au fond, l'aliénation est un fait, mais l'aliénation, en un certain sens, c'est la civilisation. L'aliénation semble une dimension constitutive et positive de ce qu'on appellera culture. Et puis, on termine sur ce moment un peu mi-figue, mi-raisin, où tu dis, mais finalement, bah, au fond, il vaut mieux être perturbé à 3h du matin par un email inopportun qu'aller faire des bouchées de sorcières. Bon, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais en même temps, on est un petit peu surpris parce qu'on a l'impression que tout le diagnostic, qui était un diagnostic d'un monde qu'on aurait envie d'appeler cauchemardesque, un monde où ça ne s'arrête jamais, bah à la fin se défait en quelques lignes avec l'idée que finalement, au fond, cette postmodernité, peut-être qu'elle est aussi moderne, qu'elle n'est pas juste postmoderne, mais peut-être au fond qu'elle a aussi une valeur positive, une valeur de civilisation. Alors là-dessus, moi j'ai un problème parce que je suis évidemment très intéressé par ta thèse de fond sur la mémoire, la documentalité comme finalement ce qui permet la constitution de mémoire et le caractère fondamental de la mémoire dans l'aménagement du monde humain, dans la possibilité pour les êtres humains d'avoir monde et de faire monde. Mais il me semble que la mutation dont tu nous parles, on pourrait justement la décrire comme une mutation dans la mémoire elle-même, une transformation de la nature même de la mémoire, et que cette transformation a un coût. Pour dire les choses de façon très elliptique, je me demande tout de même s'il n'y a pas quelque chose de caractéristique de cette ère à laquelle nous sommes arrivés, et que je serais d'accord avec toi pour décrire comme l'ère de l'enregistrement généralisé, c'est qu'on est entouré de dispositifs, effectivement, de mémorisation, mais c'est la mémoire de personne. C'est la mémoire de personne, c'est une mémoire qui n'est plus la mémoire de la synthèse mémorielle, de la synthèse dans laquelle un sujet se récupère et se définit comme sujet. C'est plutôt la prolifération d'une espèce de mémoire sans sujet, dont on ne sait pas trop à quoi elle sert. Et finalement, alors, tout à l'heure on disait c'est le moment des narratives. C'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que les narratives, ce n'est pas les récits de la tradition du récit, par exemple la tradition du roman. Les narratives sont un produit parmi d'autres d'une formation, d'une production, qu'on pourrait appeler être une production abstraite d'individualité. J'étais frappé récemment avec un collègue, je me suis retrouvé à devoir examiner un mémoire d'une étudiante très réactionnaire, mais pas bête du tout, qui travaille sur Houellebecq, alors qui développait évidemment une critique très houellebecquienne de la postmodernité. Et puis, il y a un moment, elle parlait de Facebook, justement. Elle développait toute une analyse de Facebook. Et elle disait quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Elle disait, bon, évidemment, les amis de Facebook, bien sûr, ça n'a rien à voir avec des amis. C'est pas ce qu'on appelait dans le temps des amis. Tout ça, ça n'est rien d'autre que des modes d'individuation. Alors, j'ai trouvé la formule très intéressante parce que des modes d'individuation, c'est pas la même chose. On parlait tout à l'heure de subjectivation, mais je crois que c'est pas la même chose qu'un mode de subjectivation. On est dans une ère de production d'individus qui ne sont pas des sujets. C'est des configurations. En un certain sens, ça me frappait beaucoup tout à l'heure l'exposé sur les cimetières numériques, ce grand problème qu'on a actuellement. Bientôt, Facebook accomplit le programme du positivisme, puisque Facebook sera bientôt fait plus de morts que de vivants. Et ça fait partie de son identité, ça fait partie de la redéfinition de ce qu'est un réseau social. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce qu'on est fasciné par ces histoires-là? Peut-être bien parce qu'au fond, le problème du réseau social, c'est ce dans quoi nous sommes tous déjà morts. C'est-à-dire qu'en réalité, alors j'étais frappé évidemment d'un exposé qui était très juste pour moi sociologiquement, par le fait que bien sûr les agents vont essayer de réinventer des pratiques qui vont en quelque sorte remettre de l'humain là-dedans. Il va y avoir un usage, y compris de l'identité fictive, de l'identité numérique, comme un outil de deuil comme les autres. Il y a une réappropriation. On reconstruit, on réintroduit du sujet. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est fait pour ça? Est-ce que c'est fait essentiellement pour ça? Non, c'est fait pour que le réseau s'étende, et le réseau continue, et le réseau, comme tel, n'a aucun problème à intégrer les morts. Parce qu'en un sens, tout ce qu'il y a dedans, c'est comme si c'était déjà mort. Puisque, en un certain sens, une identité numérique, en un certain sens, c'est toujours un alias. Y compris quand c'est moi. C'est moi, mais comme alias. Je pense qu'à une certaine époque, on aurait dit, c'est une critique évidemment traditionnelle du virtuel, on aurait dit, oui, c'est le passage à l'ère de la représentation. Je pense que ce n'est pas exact. Et je pense que tu nous donnes un outil pour comprendre les choses plus précisément. Ce n'est pas l'ère de la représentation, c'est l'ère de l'enregistrement. Mais c'est l'ère de l'enregistrement qui vaut comme enregistrement. Donc il y a une dimension de déréalisation radicale, puisque l'enregistrement n'est plus essentiellement défini comme enregistrement 2. Il vaut purement comme effet. De ce point de vue-là, je me pose une question sur une thèse que tu avances dans le livre à plusieurs reprises et qui est vraiment essentielle pour comprendre la notion de mobilisation telle que tu l'utilises. Tu dis évidemment ce qui est intéressant dans le système, ce que tu appelles le système, c'est que c'est fait pour produire de l'action. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a une dimension essentielle de performance dans le système. Effectivement, il est fait pour qu'on performe quelque chose. Il est fait pour quoi? Il est fait pour qu'on clique encore. Mais cliquer encore, ce n'est pas une action, c'est un acte en un certain sens, mais pas en n'importe quel sens. Ce qui me paraît intéressant, c'est que, au fond, l'email qu'on reçoit en pleine nuit, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure très minoritaire où l'étudiant a réellement besoin de quelque chose. Il a besoin d'un papier qu'il doit rendre le lundi matin, il n'a pas réussi à nous trouver, et il a vraiment besoin de nous trouver lundi à 9h du matin pour signer le papier, et donc il met un email désespéré dans la nuit du samedi au dimanche. Ce cas existe, mais c'est un cas marginal. La plupart du temps, le message ne débouche strictement sur rien en termes d'action réelle. En revanche, il doit déboucher sur le fait effectivement qu'on réponde. Mais répondre, c'est un clic de plus. C'est faire vivre le circuit, faire vivre le réseau. Alors ça me paraît être une modalité d'acte bien particulière, parce qu'en un certain sens, cette modalité d'acte-là, elle ne répond plus à l'économie traditionnelle de l'agentivité, avec le modèle de la motivation et le modèle de la praxis. Vers la fin du livre, tu réactives ce modèle aristotélicien. Mais je me demande s'il n'y a pas une tension entre mobilisation et motivation. Tu dis, pas de motivation sans mobilisation. En un sens, je serais d'accord, au sens où il est fondamental qu'en amont de la motivation, il y ait de la loi, il y ait du texte, il y ait du document. Ça, je serais tout à fait d'accord. Mais je me demande s'il ne faut pas diagnostiquer aujourd'hui une mutation dans la nature du document. Il ne faut pas se demander si le document, dans la forme qu'il revêt aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, l'ère numérique, est-ce qu'il peut encore produire de la motivation ? J'irais, c'est un peu polémique, c'est conservateur comme idée, mais je pense qu'il produit de la compulsion, plus que de la motivation. La réaction, pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que ça touche quelque chose de très profond en nous, ça touche la compulsion de répétition, et ce qui est peut-être le rapport le plus originaire que nous avons au symbolique. Donc effectivement, cliquez encore. Cliquez encore, il y a une sollicitation, on répond, on clique encore. Ça me paraît d'un ordre différent que la motivation. Donc au fond, la question que je te pose, c'est celle de savoir jusqu'à quel point tu reconnais dans ce passage à l'ère numérique une rupture, ou bien dans quelle mesure cette rupture, effectivement, est réappropriable, peut être réinscrite dans une structure de plus long terme. Et au fond, la question, c'est celle de savoir si, à partir du numérique, on peut finalement retrouver ce que tu appelles, à un certain moment du livre, la culture. Puisqu'à un moment, tu tiens ce discours qui consiste à dire cette ère-là, finalement, est une ère, en un sens, le risque, c'est de perdre la culture. Et à la fin, tu sembles entrouvrir une fenêtre disant ben, c'est peut-être possible de la récupérer. Alors la question, c'est comment renouer ce lien-là.
Merci. Merci. T'as trouvé. Ça s'entend, ça va ? Ok. T'as trouvé un point fondamental. D'abord, je voudrais te répondre d'une façon, on dirait, désarmée, puisqu'on parle d'armes, et naïve. Puisque, en effet, ce livre est écrit à partir d'une expérience naïve, puisque c'est effectivement à moi qui m'est arrivé de répondre à ces mails et me demander « mais pourquoi je fais ça ?» Donc, complètement naïf, ça peut arriver à n'importe qui. Et deuxièmement, j'ai aussi, disons dans une perspective historique, une même naïveté qui me dit. D'un côté, évidemment, ce qui se passe, c'est une mobilisation, c'est une chose négative, ce n'est pas l'émancipation qu'on croyait, qu'on promettait, mais en même temps, je crois que personne ne voudrait revenir avant, et qu'on peut effectivement quand même parler d'un progrès de l'humanité ici. Donc il y a cette forme d'ambivalence naïve qui se réfère à la chose, qui est sans doute, si tu veux, la faiblesse du livre. Pour moi aussi, puisqu'on peut dire, bon alors, tu décris un cauchemar et puis tu fais le Serenus Zeitblom à la fin, l'humaniste. Non, puisque je trouve qu'ici, il y a les deux choses ensemble. Pour être un peu plus clair, mais je consens complètement avec ton sentiment, mais alors comment ça se fait ? Il y a... En effet, dans tous les phénomènes, une duplicité que j'essaie, je ne dirais pas d'éclaircir, mais de montrer. Là, c'est une phénoménologie. En quel sens ? Tu dis, d'un côté, tu sembles parler de choses très anciennes et en même temps, tu te concentres sur une chose toute neuve. Justement, je m'intéresse du portable puisque je n'étais pas là au moment où est commencée l'hominisation. Et je n'étais pas là même à l'époque de la Révolution française. J'ai seulement des rapports de deuxième main. Mais j'étais là quand j'ai vu le premier portable et j'ai vu l'évolution du portable. Et cette évolution du portable m'a donné l'impression de voir un raccourci de l'évolution de l'humanité. La réalisation d'un certain nombre de théories philosophiques, voir toutes les fautes que font les philosophes, signalées par Derrida, mieux la voit et les gens écrivent, c'est innaturel, c'est... Et tout cela se voit dans une échelle temporelle si brève. Donc, je ne dis pas ni que le web c'est l'azimut de l'humanité, ni que le web c'est un cas d'étude. Moi, j'ai lu un livre écrit par un réputé sémiologue italien qui est paru en 1999. La thèse était, étant donné que le portable est un status symbole, maintenant il n'est plus un status symbole puisqu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont, donc le portable va disparaître. C'était très, très intéressant. Non. Non, excuse-moi. Non, je croyais. Arrête, on en a marre. Non, c'est la mauvaise conscience. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une mutation qui est en même temps une révélation? Là, c'est vraiment le propre de l'homme. Là, je suis d'accord avec la vision Nietzsche, Galen, etc., que le propre de l'homme, c'est d'avoir besoin de techniques, puisqu'il n'est pas comme le condor, il a besoin de la bicyclette, et puis il a besoin de l'ordinateur, etc. Donc, ce qui se révèle, c'est la révélation de quelque chose qui fait partie de l'en-soi de l'homme. L'en-soi de l'humain se révèle par les techniques. Et en plus, il est vrai que si on compare un cerveau humain avec un cerveau de cochon, par exemple, qui est très près de l'humain pour multiples raisons, on voit qu'ils sont très proche. Apparemment, l'éléphant a un cerveau plus grand que l'homme. On dit que c'est moins compact, donc moins de neurones. Mais au fond, la véritable différence, ce qui nous rend humains, n'est pas en nous, mais hors de nous, dans les techniques qui nous extériorisent et qui revient sur nous. C'est cela qui fait la différence de l'humain par rapport à l'animal non humain. Et donc, c'est pour ça que je ne vois pas une véritable contradiction, à moins qu'on dise que l'humain est intrinsèquement contradictoire, et là, on pourrait être d'accord, puisque ça ne sont pas des choses qui arrivent au castor, par exemple. Je ne peux pas imaginer un castor pris dans un cauchemar technologique, bien que le castor a une technologie à lui, mais je dis, le castor à bon sens, et sans me référer à Simone de Beauvoir, effectivement... Effectivement, il est comme ça. Et pour venir, une dernière chose qui est très importante, dans tes remarques, tu as continuellement fait un partage entre motivation authentique, compulsion non authentique. Authentique, inauthentique.
J'ai pas pris ce mot-là, mais tu peux interpréter ça dans ce cadre-là.
Oui, oui, oui. Alors, je serais peut-être trop déridien pour tes goûts. Ouais. Mais, en effet, moi, je crois que il n'y a pas une véritable action et une fausse action. On a toujours des actes. Et il n'y a pas l'automate et le livre. Je dirais que le livre, c'est une forme de technologie. La liberté, elle est une technologie. Et là, je suis dans un certain sens kantien, puisque Kant parle d'une éducation de la volonté, donc suppose qu'il y a une transformation technologique de la volonté. Il n'y a pas, et ça est cohérent au moins avec la définition de l'homme que j'ai donnée, comme il n'y a pas en soi de l'homme, il n'y a pas un authentique de l'homme. Ceci est justement, donc d'un certain côté, une présentation trop rusée pour justifier des naïvetés qui pourtant existent. C'est-à-dire, on se demande, suis-je pas authentique au moment, suis-je aliéné au moment où je réponds? Non, je ne suis pas sûr que je suis aliéné. Qui est la réponse la plus normale qu'on donne. Peut-être que mon essence est celle-là.
Merci, je crois que ça clarifie bien ta position. Bon, je pense que là-dessus, on n'est pas entièrement d'accord. En même temps, je dois dire que ce qui me fascine dans ta position, c'est justement cette idée qu'il y aurait un socle de la socialité qui serait du côté, enfin, de ce que j'appellerais moi compulsion. Et je pense que la compulsion, c'est pas du primitivisme de dire ça, parce que je pense que la compulsion, il est fondamental qu'elle se situe dans le rapport, y compris à des dispositifs qui sont des dispositifs intrinsèquement symboliques et en tant que ces dispositifs sont symboliques. Donc c'est vrai que, là, c'est peut-être le côté déridien, effectivement, de ce que tu fais, c'est ce qui renvoie, évidemment, à notre rapport primordial au signe et au signe en amont du sens, au signe plus que le sens et en amont du sens, comme condition du sens et pas seulement, parce que comme probablement quelque chose qui est aussi en jeu dans des comportements qui frisent le non-sens, mais qui font partie de notre existence sociale en tant que nous sommes d'abord confrontés au signe. Alors ça, cet aspect-là de ta pensée, bon, qui je pense est un fil rouge aussi de ta pensée sur le long terme, hein, depuis plusieurs décennies, c'est évidemment quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Donc je voudrais revenir au second point, qui est au fond un point d'accord, hein, justement, et qui n'est pas sans rapport avec cette question-là. J'ai été, évidemment, j'ai beaucoup apprécié la thèse, au fond, centrale qu'il y a dans le livre sur, en termes de philosophie sociale, en termes d'interprétation philosophique de la société, de l'aide sociale de l'homme, qui venait pour moi aussi corriger opportunément certaines formules du manifeste du nouveau réalisme, parce qu'en manifeste du nouveau réalisme, comme tu allais vite là-dessus, tu avais certaines formules qui étaient relativement convergentes avec Searle. Il y avait un passage où tu disais, bon, au fond, le constructivisme a tort pour la première nature, mais raison pour la seconde. Alors là, tu corriges cette idée-là, et je suis extrêmement d'accord, hein, évidemment, avec la critique du constructivisme social, l'idée que la notion de construction n'est pas la bonne notion pour saisir le social, y compris pour saisir le social dans son caractère, pourrait-on dire, intrinsèquement artificiel. Au fond, il ne nous permet pas de comprendre ce en quoi l'artifice est fort au point où il l'est, et le point auquel il vient en amont, le point auquel on ne peut pas faire comme si le social émergeait de nos subjectivités et pas plus se réfugier dans l'idée confortable d'une subjectivité collective que avoir une construction individualiste du social, mais on est obligé de poser à la source. Et pour ça, la thèse évidemment de la documentalité, l'idée que ce qui est premier, ce qui est fondamental, c'est les documents comme tels, c'est une thèse moi qui me convainc relativement, donc on est tout de même en très fort accord sur ce point-là. La question que j'aurais, bon, Emmanuel a déjà poser une question sur ce terme, la mienne ne sera pas tout à fait la même, c'est effectivement sur la notion de révélation. Moi, qui est une notion qui m'intéresse bien, mais qui m'intéresse bien peut-être pour d'autres raisons. Alors, c'est marrant parce qu'Emmanuel a beaucoup parlé de Lévinas. Je ne ferai pas ça parce que, justement, il me semble que c'est un mauvais jeu de mots. Il me semble que l'appel, si c'est l'appel du petit bruit, un petit signal qui me dit que j'ai reçu un nouveau poste, qu'il y a un nouveau poste sur mon mur, pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'appel éthique, effectivement, lévinassien. Mais la notion de révélation, pour moi, elle me fait forcément penser à ça, parce qu'elle me fait forcément penser à ce qu'il peut y avoir d'antiphénoménologique et de critique de la phénoménologie chez Lévinas, qui pourtant s'en inspire en partie, avec cette opposition entre d'un côté ce qui se phénoménalise, ce qui est de l'ordre de l'apparaître, ce qui va apparaître, et puis de l'autre côté ce qui ne se phénoménalise pas, mais se révèle, avec l'idée que c'est ce qui est dit et qu'il y a une valeur particulière, il y a une valeur insigne de la parole, il y a ce qui me tombe dessus, comme ce qui est dit, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter comme apparaissant, c'est forcément réducteur de traiter comme apparaissant. Alors, mais évidemment, il y a tout de même une précision à introduire, qui est que l'appel, comme ce qui est dit, ce qui vient me saisir en tant que je suis interpellé, en tant qu'on me dit quelque chose, il est adressé. Il a une dimension fondamentale d'adresse. Or, ce dont je ne suis pas entièrement sûr, c'est que l'appel dont tu parles dans ce livre soit réellement adressé. Alors, il faudrait distinguer les cas de figure. Tu me diras, si c'est un email, on dira par définition, il m'est adressé. Même ça, ça ne va pas entièrement de soi. On sait bien qu'on est inondé d'emails qui ne sont pas adressés. Il y a des emails collectifs. Le cas de la demande, lorsque l'email transmet, mais là, on retourne dans la communication. L'email transmet une demande. L'étudiant me demande quelque chose, d'accord ? Mais c'est marginal. La plupart des emails ne sont pas adressés en ce sens-là. La plupart des emails relèvent plutôt d'une nappe de choses anonymes qu'on reçoit. Anonymes au sens où on peut très bien connaître l'auteur, mais ce n'est pas à nous en particulier qu'on parle. Et pourtant, bizarrement, on laisse filer généralement, mais parfois on se sent obligé de réagir, on se sent obligé de faire quelque chose. Mais le cas des réseaux sociaux est encore beaucoup plus parlant. Ce qui est publié dans les réseaux sociaux, en règle générale, n'est pas adressé, ou en tout cas, ne se présente pas comme adressé. Il peut l'être, parce qu'on peut utiliser le réseau social pour en réalité faire passer un message à quelqu'un, mais en règle générale, ce n'est pas sur cette modalité que ça se présente, ce n'est pas adressé. Donc, on a affaire à une nappe documentaire ou documentale, je ne sais pas comment il faut dire, qui se constitue, qui croît, qui prolifère, mais une nappe documentaire ou documentale sans adresse. Ce qui, évidemment, n'est pas sans rapport avec la question que je posais tout à l'heure, dans la première remarque que je faisais, sur le fait qu'on n'est peut-être pas à un niveau où la notion de subjectivation ou de sujet soit la plus pertinente, puisque on est plutôt confronté à un tissu qui se constitue, et dans ce tissu, il y a différents jeux possibles, différentes façons de définir différentes personnalités, différentes individualités sur un mode qui, pour le coup, est un mode constructif. Mais finalement, nous sommes très peu en position d'avoir réellement à répondre. Ou dans ce cas-là, il faut se mettre d'accord sur ce que veut dire répondre. Nous sommes censés réagir. Nous sommes censés mettre quelque chose dans la machine. On est censé nourrir la circulation. Est-ce qu'on est censé forcément répondre en personne, au sens de celui qui dit « je suis responsable » ou de celui qui témoigne. Alors, tu me vois venir, s'il s'agit d'une révélation, est-ce que ce n'est pas une révélation sans témoignage ? Et dans ce cas-là, c'est toi un concept de révélation, là aussi nouveau. Ça change le concept de révélation. En tout cas, il y a à s'interroger sur ce qui à retenir ou pas dans l'usage de cette métaphore qu'est le mot « révélation » dans ce contexte-là, dans le contexte que tu utilises. Donc c'est pour ça que j'aimerais t'entendre un peu plus sur cette notion de révélation, ce que tu y places exactement dans ce contexte-là.
Merci. Là, je touche un point important, je dirais même capital, si ce n'était pas une référence à ce petit livre. Mais c'est que le fait que j'utilise le terme « révélation » est précisément du fait que, d'abord, « révélation », c'est comme apprivoisé par le vocabulaire religieux, mais ce n'est pas tout à fait le cas exclusivement de la religion. C'est une expérience phénoménologique, assez évidente, celle de voir l'apparaître des choses et puis de penser « Ah tiens, c'est là, c'est pour là, c'est quelque chose qui se révèle. Ce n'est pas un plus d'être qui était caché derrière. C'est quelque chose qui était là présent comme la lettre volée et je le découvre. » Donc, par exemple, il y a pas mal de révélations dans le portable, précisément, puisque c'est tout c'est tout évident, rien n'est caché, au moins dans la phénoménologie du portable, mais nous apprenons sur nous-mêmes des choses qui n'étaient pas aussi évidentes auparavant. Et je reviens justement à pourquoi alors. Et ce qui s'est révélé, au fond, c'est une essence, puisque nous n'avons aucune raison de penser qu'il y a une essence, une réalité humaine séparée de ce type de révélation. Alors là, vraiment, je suis... très différent de Levinas, et je dirais plutôt d'une façon hegelienne que l'apparence est nécessaire pour l'essence. En plus, ce qu'on dit pour la technique qui semble bizarre, c'est banal pour l'histoire. C'est-à-dire, il est normal de dire pour l'histoire que les gens agissent sans savoir vraiment le signifié de leur action. Puis, 50 ans après, les historiens comprennent ce qui s'est passé. Au fond, l'idée de l'historicisme, c'est que l'homme vieux regarde sa vie et comprend le motif de ses actions. Sans vouloir généraliser, c'est ce qu'il se passe dans ce rapport plutôt synchronique entre la technique et ce que la technique révèle. La technique révèle justement une sorte de constitutive inauthenticité humaine qui fait ainsi que, justement, je ne veux pas être le grand révélateur, tout est égal, mais c'est vrai que l'appel qui vient de Dieu à Abraham est probablement plus important que l'appel que vient dans l'email. On est d'accord sur ce point. Mais il reste que dans l'email et dans Dieu qui parle à Abraham, il y a une différence, il y a ce trait commun, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'adresse, ce qui se passe dans l'ordinateur et ce qui ne passe pas dans la télévision. Si tu regardes la télé, tu serais le président Schreiber, si tu penses qu'il s'adresse vraiment à toi. Tandis que l'implicite, c'est qu'il s'adresse à toi. Oui, tu as raison, tu fais les différences, etc. Ce n'est pas vraiment, très rarement, est vraiment adressé à toi. Mais le contexte, c'est quelque chose qui te regarde et qui s'adresse à toi. C'est ce qui se passe dans le email. Tandis que ce qui se passe dans la télé ou dans la radio, ce n'est pas vraiment adressé à toi. Donc... c'était pas adressé, ce n'était pas adressé à nous. Pour revenir à la question de l'authenticité, la responsabilité. Voilà. Il est très vrai, la responsabilité, répondre au téléphone, ce n'est pas être responsable de l'humanité. Mais d'une façon plutôt lévinassienne que kantienne, je suggère que la responsabilité au sens fort, c'est-à-dire répondre de, dérive, est une modification de la responsabilité au sens de la soumission, répondre à. Et on pourrait même dire que, par exemple, la liberté et une modification de la compulsion. Au fond, c'est ce que nous dit Freud, puisque son neveu fait forte da. Il est évidemment compulsif, et avec un grand-père comme ça, c'est normal. Mais en même temps, il exerce une liberté da, et plus fort. Donc, il est très difficile de distinguer ce qui est compulsif de ce qui est livre. Ainsi que c'est difficile de distinguer la tuche de l'automaton, si tu veux. Voilà, et ceci pour la responsabilité. Merci encore.
Merci à toi.